Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Virginia Crespo.
Canal Académie a le plaisir de recevoir Jean-Pierre Bablon de l'Institut de France, historien, moderniste, élu le 19 juin 1992 à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Jean-Pierre Bablon, bonjour.
Bonjour madame.
Tout commencera pour vous, Jean-Pierre Bablon, en 1954, à l'École des Chartes, où vous serez diplômé archiviste, paléographe, et ensuite vous passerez du statut de conservateur du Musée de l'Histoire de France aux Archives nationales, à celui de professeur d'histoire de Paris à l'École du Louvre, à celui de maître de conférence à l'École pratique des hautes études, à celui d'inspecteur général des Archives de France, de directeur du Musée du domaine national de Versailles et de Trianon, président de la Fondation Jacques Marandré. La majeure partie de votre carrière se passe aux Archives nationales et justement, pour devenir archiviste, Jean-Pierre Bablon, vous présentez en 1954 à l'École nationale des Chartes une thèse intitulée « La demeure parisienne sous Henri IV et Louis XIII ». Donc ce compagnonnage aux côtés du bon roi Henri a commencé très tôt pour vous, vous a accompagné une bonne partie de votre parcours, de votre vie. Il faut faire des choix, on le sait, dans une carrière, dans un cheminement professionnel. Pourquoi ce choix-là, Jean-Pierre Bablon ?
Bien, ce choix, d'abord mon sujet de thèse m'a été inspiré par la fréquentation que j'avais de Paris. J'aimais énormément le vieux Paris, j'aimais me promener dans ses rues, aller voir ce que c'était que le Faubourg Saint-Germain et surtout le Marais, n'est-ce pas ? Et découvrir ces maisons qui étaient souvent à la limite du XVIe et du XVIIe siècle. Donc, lorsque j'ai décidé de mon sujet de thèse, j'ai décidé à la fois Paris et l'architecture, et au point de vue de la date, c'était, comme vous voyez, Henri IV et Louis XIII, c'est-à-dire la jonction entre la Renaissance et l'architecture moderne. Et il se trouve que, poursuivant mes recherches sur l'urbanisme parisien, j'étais amené un beau jour à répondre à une question qui m'était faite. Si vous écriviez un livre sur une grande période de l'histoire de France ou un grand tome de l'histoire de France, qui choisiriez-vous ? Et ma réponse, je dois dire, a été immédiate, ça a été Henri IV. Cet homme me fascinait depuis longtemps, et encore une fois, il me fascinait à travers ce que j'en avais vu de Paris. Et puis, bien sûr, j'ai découvert ensuite, en écrivant ce livre, cette valeur française, européenne, chrétienne, pacifique, internationale, de ce personnage hors du commun.
Oui, alors justement, arrivé à ce niveau de recherche auquel vous êtes parvenu concernant Henri IV, que pourriez-vous nous dire, un peu en préambule à ce que vous allez exposer dans un instant auprès des auditeurs de Canal Académie par rapport à ce personnage, que pourriez-vous nous dire de façon synthétique sur ce roi dont l'assassinat par Ravaillac remonte tout juste à 400 ans ?
400 ans.
Voilà, cette année 2010. Ce roi pris dans la tourmente des guerres de religion et dont la personnalité, êtes-vous d'accord, n'a jamais laissé indifférent ceux qui l'ont approché ?
Non, c'est extraordinaire de voir que les régimes politiques, les uns après les autres, se sont raccrochés à cet homme qui est presque un petit peu en dehors d'une monarchie sanctifiée, si vous voulez. Il apparaît véritablement comme un chef d'État, et comme un chef d'État qui a compris les enjeux essentiels de la France, qui a voulu conduire la France et qui, encore une fois, étant un combattant, qui a traversé tous les champs de bataille en risquant sa vie sous son panache blanc, n'est-ce pas ? A été aussi un homme persuadé qu'il fallait absolument pacifier ce royaume qui était en proie à des dissensions internes avec les guerres de religion et externes avec les guerres contre l'ennemi extérieur qui était surtout les Habsbourg et l'Espagne et que malgré cette guerre permanente qu'il est arrivé à terminer avec des traités de paix, il fallait commencer à bâtir la paix et bâtir la paix pour assurer l'équilibre et le sursaut économique de la France dans le jeu des nations européennes.
Alors Jean-Pierre Bablon, vous êtes historien moderniste, c'est-à-dire que vous avez centré vos recherches sur la seconde moitié du XVIe et la première moitié du XVIIe siècle, en ciblant donc en particulier avec les guerres de religion le règne d'Henri IV, ce qui nous vaut donc l'honneur et l'avantage de vous recevoir aujourd'hui devant nos micros pour cette émission consacrée au roi Henri IV. Je dois préciser qu'ayant travaillé l'histoire urbaine de Paris, de cette même époque, XVIe, XVIIe, à l'histoire de l'art, de l'architecture française de cette époque, et en particulier des châteaux tels que le Louvre, Versailles, Chantilly, vous allez pouvoir évoquer pour nos auditeurs spécifiquement au cours de cette émission quelques facettes particulières assez méconnues de ce premier roi de la lignée des Bourbons sur le trône de France. Nous allons commencer par la facette d'Henri IV, bâtisseur, la première facette qui vous a valu de tomber en affection pour lui en vous promenant dans les quartiers du Marais. Alors Henri IV, le constructeur, en quoi a-t-il mérité ces qualificatifs de bâtisseur, de constructeur ? Expliquez-nous.
Bien, je voudrais d'abord vous dire que Henri IV, ça n'est pas un produit autogénéré à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. C'est un homme qui a une histoire. Cette histoire est une histoire française et une histoire gasconne et béarnaise, n'est-ce pas ? Et c'est très important pour comprendre Henri IV et pour comprendre l'action sur le royaume de France. Il arrive donc un demi-siècle après François Ier. C'est très important de penser à ça, d'autant plus qu'il était le petit-fils de la sœur de François Ier, de Marguerite, qui était l'illustre femme défendant les humanistes et ayant une autorité personnelle tout à fait surprenante, n'est-ce pas ? Une de ces grandes princesses du XVIe siècle qui ont marqué l'histoire du monde. Et c'est donc à la suite de la construction du château de la Loire, d'un art architectural travaillé par les Valois et travaillé par eux-mêmes et aussi en relation personnelle avec les artistes et en particulier les architectes, qui nous a valu donc Chambord, le Louvre, Fontainebleau et les rapports avec des Italiens d'abord, en premier lieu Serlio, et puis par l'entremise d'un illustre prélat qui était le cardinal d'Este, que j'ai la joie de retrouver à l'abbaye de Chaly, dont je suis responsable, ainsi que Serlio. Et puis les architectes français qui sont Ducerceau, Pierre Lescot, Philibert Delorme, n'est-ce pas, des très grands noms, qui vont travailler pour les rois de France. Donc il y a une espèce de tradition de la coopération entre les programmes imposés par le roi et puis la réponse donnée par les architectes. Ça, c'est l'aspect français de sa formation et de son arrivée chronologiquement dans le XVIe siècle. Le deuxième, c'est l'environnement familial. Je vous ai dit qu'il était le petit-fils de Marguerite d'Angoulême. Et lorsque nous allons à Pau, nous avons la surprise de voir que sous le grand donjon de briques construit par Gaston Phébrus, grande tour carrée, n'est-ce pas, qui ombrage le château de Pau, nous avons les travaux qui ont été menés dans la cour dès 1530 par Henri d'Albret, pour accueillir précisément Marguerite d'Angoulême, sa femme, qui venait. Cour du Nord, il voulait la satisfaire, lui faire plaisir en lui disant « Mais nous aussi à Pau, n'est-ce pas, nous pouvons faire aussi bien ?» Et il y a deux façades sur la cour du château de Pau qui sont décorées dans le style de la première Renaissance avec des frontons à pilastres, des médaillons et puis, l'une des conquêtes de cette époque-là, un grand escalier à rampe droite. Et enfin, dernier phénomène tout à fait étonnant, devant les appartements royaux des rois de Navarre, le même Henri d'Albret a fait construire une terrasse longue, n'est-ce pas, bordée d'une balustrade, et qui est en dehors du bâtiment et qui longe les appartements royaux. Et qu'est-ce qu'on voit de cette terrasse ? Vous imaginez, plus beau paysage montagneux du monde, c'est-à-dire les Pyrénées. C'est la première fois, en dehors également, je rappelle, du château d'Amboise, où nous avons un cas semblable aussi, là c'est sur le paysage de la Loire, où on décide d'avoir une grande terrasse bordée d'une simple balustrade d'où l'on peut voir le paysage, c'est tout à fait extraordinaire. La fenêtre n'est plus simplement une ouverture pour voir simplement la campagne et prendre l'air, mais aussi pour associer dans son esprit la jouissance du panorama avec la vision de ce que la nature produit de plus beau.
Ça, c'est la création donc du grand-père maternel. Et le jeune Henri a vécu là.
Il a vécu là.
Il a grandi là, dans
cette beauté.
Et si
nous remontons encore plus haut à Nérac, cette fois-ci, c'est le trisaïeul Alain d'Albret qui a dessiné une terrasse devant le château de Nérac qui longe une petite rivière qui s'appelle la Baïse, agréablement ombragée. Et qu'est-ce qu'on peut trouver aussi déjà dans cet esprit de ces châteaux de Pau et de Nérac ? C'est déjà des jardins en terrasse qui permettent de regarder le paysage et de regarder la rivière, ce lien avec la rivière. Et je vous rappelle que, bon, nous allons en parler, mais c'est ce qui va faire l'enthousiasme extraordinaire d'Henri IV pour Saint-Germain-en-Laye, c'est-à-dire qu'on a là la possibilité d'être de jardin en terrasse d'une part et d'une vision sur la Seine comme aucun autre château royal n'a pu en avoir.
Alors donc, ça c'est l'héritage et ce sont les beautés dans lesquelles le jeune futur roi Henri IV a pu grandir, s'épanouir, se développer. Mais alors lui-même est intervenu comment ? Quelles sont ses créations ?
Eh bien lui-même, il arrive comme ça, il arrive surtout à Paris, n'est-ce pas ? Puisque c'est à partir de l'entrée à Paris qu'il se préoccupe d'un patrimoine laissé par ses prédécesseurs. Et il se dit, mais enfin, tous ces châteaux qui ont été commencés par les Valois n'ont pas été terminés. Les caprices désordonnés des Valois ont été brisés par des années de guerre et aussi un budget très amoindri petit à petit. C'est-à-dire que Chambord, surtout le Louvre et les Tuileries sont des palais abandonnés par les rois de France, par François Ier, Henri II, les Tuileries par Catherine de Médicis. L'hôtel des Halles de Catherine de Médicis est également à l'abandon. Il en est de même de Saint-Maur, de Monceau, et puis des grands châteaux, mais que nous ne voyons plus, qui ont été des créations propres des derniers Valois, Charles IX à Charleval, Henri III à Olainville, où ils voulaient avoir marqué le sol de leur goût personnel pour avoir leur résidence. Et ma foi, il n'en reste quasi plus rien. Donc, il est effrayé, n'est-ce pas, sur le plan du patrimoine, de voir que tout cela est abandonné. Et la décision est prise immédiatement. Et il va s'occuper de, je mets le guillemet, « mes bâtiments », n'est-ce pas. Ce terme de « mes bâtiments » est un terme qui revient sans cesse. Il est véritablement le maître de ce patrimoine bâti. Et on raconte souvent que Henri IV jouait, il avait la passion du jeu, n'est-ce pas, quand il gagnait. L'argent, bon, quand il gagnait sur des paris à la paume, par exemple, lorsqu'il gagnait quelques sous, bon, il les mettait dans sa poche en disant « ce sera pour mes maçons, je les garde pour mes maçons ». Et on ne peut mieux citer donc cet appétit de construire en répétant ce sonnet de Malherbe qui est daté de 1608. « Beaux et grands bâtiments d'éternelle structure, superbes de matière et d'ouvrages divers, où le plus digne roi qui soit en l'univers, au miracle de l'art, fait céder la nature. » Malherbe, qui suivait très attentivement toutes les allées et venues d'Henri IV, n'est-ce pas, exprime magnifiquement ce désir de forcer la nature et d'arriver à créer une œuvre d'art à partir de cette nature. Donc, mes bâtiments, et nous savons qu'il commence à dépenser fortement à partir de 1597. C'est donc aussi l'idée pour lui d'avoir un patrimoine qui fonctionne, n'est-ce pas, qui n'est pas une œuvre morte. Et comme il va rénover petit à petit les finances du royaume, eh bien un certain nombre de ressources financières vont être trouvées.
Voilà, parce que de toute évidence, c'est après toutes les campagnes, toutes les guerres, toutes les batailles qu'il aura menées qu'il pourra se livrer à cet amour de l'architecture et commencer donc à ouvrir tous ses chantiers.
Voilà, tout à fait.
À quel château s'est-il attaché plus particulièrement ? On parle de Fontainebleau ?
Oui, mais enfin, le Louvre, il y pense dès 1595, n'est-ce pas ? Et ce Louvre, bon, vous savez, l'ambition extraordinaire, fantastique qu'il a eue pour le Louvre, puisque ce Louvre était si médiocre que lorsque Marie de Médicis est arrivée après son mariage à Paris et qu'on l'a conduite au Louvre, qu'elle est entrée par la porte fortifiée du Louvre, elle a dit « mais c'est pas possible, on se moque de moi, c'est pas ça le Louvre, n'est-ce pas ?» Ce Louvre, c'est le petit château, la petite cour carrée, la petite, n'est-ce pas, avec le gros donjon, dont les nouvelles ailes n'étaient même pas achevées. Vous voyez l'aile Pierre Lescot, et puis cette ordonnance de Pierre Lescot avait été continuée par Charles IX, puis par Henri III, dans seulement les premières travées de la demi-aile sud, n'est-ce pas ? Et Henri IV va continuer sur ce plan, on le voit d'ailleurs sur ses monogrammes, pour une petite cour carrée. Mais dans son esprit, ce n'est qu'une infinie partie de ce qu'il veut faire du Louvre. Ce qu'il veut faire, c'est, on le connaît par des dessins et aussi par une grande peinture à fresque qui est à Fontainebleau, il s'agit de ce qu'on appelle le grand dessin, c'est-à-dire de quadrupler la cour du Louvre, telle qu'elle l'a été du temps de Louis XIV, mais c'était un projet d'Henri IV, premièrement. Deuxièmement, d'aménager des cours d'accès devant le Louvre pour en faire une très grande résidence, d'aménager des jardins en carré dans tout ce qui est aujourd'hui la cour Napoléon du Louvre, de lancer des grands bras de galeries à droite et à gauche et de rejoindre les Tuileries. Donc ça devenait quelque chose de colossal avec les jardins des Tuileries. Alors vous savez, comme moi qui n'a pas construit la galerie du Nord, mais qu'elle a construit la grande galerie du Sud, n'est-ce pas, qui fait 450 mètres de long. Et on raconte, c'est vrai d'ailleurs, qu'il aimait beaucoup les galeries parce que lorsqu'il devisait ou qu'il travaillait avec un ministre, il n'aimait pas être assis. Donc il marchait. Donc il arpentait les grandes galeries et on dit que le petit Louis XIII aussi suivait derrière ou jouait avec un petit cheval, etc. Donc les grandes distances, c'est toujours ça qu'il a recherché à Saint-Germain ou comme à Fontainebleau.
Donc il a vécu au Louvre.
Il a vécu au Louvre, voilà. Et puis, donc arrivé au pavillon extrême, il a décidé de réunir le pavillon extrême avec les Tuileries qui étaient à l'abandon. Donc d'avoir cette conception du palais immense et certainement dans son esprit, c'était de transporter ultérieurement la résidence du roi du Louvre vers les Tuileries, puisque les Tuileries, c'était le château devant les jardins, n'est-ce pas ? Alors ça n'était pas du tout le cas du Louvre, bien sûr, malgré le petit jardin qu'on appelle le jardin de l'Infante devant la petite galerie. Et puis c'était aussi, rappelons-nous, la possibilité d'imaginer que s'il y avait des émeutes à Paris, on pouvait s'esquiver rapidement vers l'ouest. C'est ce qu'avait fait, je vous rappelle, Henri III devant les émeutes de la Ligue. Donc c'était ouverture vers la liberté qui était possible à travers les Tuileries. Donc l'intérêt qu'il a porté aux Tuileries est extrême. Bon, il y a donc le Louvre, comme je vous disais. Il y a Fontainebleau, n'est-ce pas, où il a rénové entièrement la demeure du roi dans les appartements royaux et les appartements de la reine, après le mariage avec Marie de Médicis, pavillon du roi, l'appartement de la reine. Il a modifié la cour ovale à Fontainebleau et il a ajouté pour l'entrée de la cour ovale cette entrée triomphale avec l'architecture tout à fait italienne, magnifique avec ce pavillon. Pavillon d'entrée qu'on appelle le Baptistère, puisque c'est là qu'est baptisé le dauphin. Puis la chapelle de la Trinité, qui était une admirable chapelle royale.
Il paraît que dans des textes de l'époque, vous allez nous en donner confirmation, oui, on décrit le roi en train d'encourager ses maçons, veiller à l'entretien des canaux, des jardins, des vergers, des animaux qui les peuplaient, comme ces autruches, ces gazelles qu'aimait tant le jeune Louis XIII. C'est exact ?
Oui, tout à fait.
Quelqu'un de très présent.
Très présent, très présent. Vous soulignez son intérêt pour les jardins. Les jardins, c'est aussi les jardins, comme vous voyez, avec un côté exotique, avec les animaux, avec la création du bosquet. Et puis aussi, c'est sur le plan économique, mais nous en parlerons peut-être, l'idée que ces jardins peuvent servir à quelque chose dans l'industrie de la France, c'est-à-dire les plantations de mûriers pour faire de la soie en France et non pas acheter la soie italienne.
Toujours le fin stratège.
Tout est réuni, n'est-ce pas ? Tout est réuni. Et puis le plaisir des enfants, ce plaisir qu'il avait à aller voir ses enfants. Alors là, nous arrivons sur Saint-Germain-en-Laye, n'est-ce pas ? Saint-Germain-en-Laye, vous aviez le château vieux qui existait depuis Saint-Louis, qui est un espace fermé. Et puis à côté, il y avait un château neuf qui avait été créé, une espèce de résidence extérieure, une sorte de casino à l'italienne construit du temps d'Henri II. Et Henri IV frappait le front en disant « Mais enfin, c'est bien plus beau que le château vieux, n'est-ce pas ? Le château neuf, c'est une merveille plantée en face de la Seine. » Et alors, il a donc décidé d'allonger cette petite construction d'Henri II avec des galeries, encore une fois des galeries, et puis de créer des jardins en terrasse avec des rampes qui descendaient de terrasse en terrasse, 7 étages, n'est-ce pas ? Et sous ces terrasses, des grottes avec des fontaines qui coulaient comme ça, avec un bruit qui était fort agréable. Et on descendait comme ça, petit à petit, jusqu'au niveau le plus bas où il y avait un embarcadère pour s'embarquer pour Paris. Donc c'était une espèce de demeure de rêve, n'est-ce pas ? Comme vous imaginez, des résidences prônées aujourd'hui pour les urbains qui veulent prendre l'air, n'est-ce pas ? C'est tout à fait la résidence par excellence, on imagine. Les belles photos sur des gazettes de tourisme.
Oui, et ce qui est important à souligner, c'est qu'il s'est appuyé sur les créations des Valois pour les développer, les enrichir. Il n'a pas tout détruit pour reconstruire quelque chose. Donc, c'est intéressant.
Oui, c'est intéressant. Vous le soulignez à juste titre, ces châteaux, c'est les châteaux de ses prédécesseurs mis en valeur, où il leur a trouvé un nouveau piment, n'est-ce pas ? Et puis également le plaisir de les entretenir. En revanche, ce qui lui appartient totalement, c'est l'urbanisme.
Voilà, tout à fait. Alors, au niveau de l'urbanisme, que pouviez-vous nous dire ?
Pour vous donner tout de même une idée, les dépenses sur les châteaux, j'ai compté sur 10 ans. Enfin, j'ai compté, c'est Bernard Barbiche, en faisant des travaux sur les finances du royaume d'Henri IV, gérées par Sully. En 10 ans, de 1597 à 1606, il a dépensé 4 786 000 livres.
C'est une bonne somme,
voilà.
Oui, en conversion en euros, non, vous avez fait la conversion.
Non, je laisse les auditeurs la faire.
D'accord.
Très bien. Il a aussi insisté sur le fait que Sully a été nommé surintendant des bâtiments en 1602, d'une part, et puis après ça, il a eu la surintendance des bâtiments de Paris après cela. Et Sully a cherché à mettre un petit peu d'ordre dans les dépenses, n'est-ce pas, en instituant des procédures. Bon, il n'y avait pas les appels d'offres comme aujourd'hui, mais enfin, il y avait une présentation des projets de dépenses et après ça, un aval donné. Bon, c'est toute une procédure qui est due à l'esprit méthodique de Sully.
que lui doivent les places Dauphine, la place des Vosges?
Eh bien, l'urbanisme parisien, qu'est-ce que c'est que l'urbanisme parisien? C'est l'intérêt du public. Ça, c'est essentiel. Ça n'est plus l'intérêt du roi, ce que nous avons vu précédemment, du roi et de sa famille, de sa cour.
Pour le peuple, pour son bon peuple.
Et je veux dire, épater les Italiens qui arrivaient de Florence pour voir la reine Médicis, non. C'est le peuple et c'est son intérêt particulier pour la ville de Paris. On sait ce qu'elle lui a coûté, la ville de Paris, n'est-ce pas? Elle lui a coûté en transformation absolue de son dessein, qui était peut-être d'essayer de régner sur la France en tant que protestant. Et puis, la position de la ville de Paris lui a montré qu'il fallait vraiment adopter la ligne de conduite chrétienne de ses prédécesseurs et que les Parisiens n'accepteraient pas un roi qui ne fût pas catholique.
Paris vaut bien une messe.
Bon, c'est une parole controuvée, mais qui a été répétée bien des fois et qui, dans le fond, est vraie, n'est-ce pas? Il s'est rendu compte que Paris ne céderait, qu'il l'avait assiégé. Il l'avait entouré d'un étau pour empêcher les subsistances d'arriver.
Ça a été un siège épouvantable.
Et finalement, il s'est dit, voilà, je ne céderai. La ville ne cédera que si je prends véritablement ma décision. Et ma décision, je vais la prendre en réfléchissant beaucoup. Et puis, c'est donc l'abjuration d'une part et le sacre de Chartres ensuite qui ont décidé les Parisiens à ouvrir leurs portes. Donc cet intérêt pour la ville de Paris, qui lui avait coûté si cher, est affiché par le roi dès maintenant. Voilà, cette ville de Paris qui est un monde, comme l'avait qualifié Charles Quint lorsqu'il était passé par Paris sur l'invitation de François Ier, non pas une ville mais un monde, est absolument essentielle. Et il faut regarder quels étaient les gestes qui ont été faits par ses prédécesseurs dans la ville pour voir où ils tranchaient véritablement. Il n'y a pas chez ses prédécesseurs de décision d'urbanisme, sauf pour la reconstruction des ponts. Et la construction du pont, lorsqu'il a fallu reconstruire le pont Notre-Dame, les ponts étaient à ce moment-là surélevés de maisons sur les deux côtés du pont. On ne voyait pas la rivière lorsqu'on traversait les ponts de Paris à ce moment-là, pas du tout. Et le pont Notre-Dame a été la première démarche d'un roi sur le plan de l'uniformisation de l'aspect architectural. Louis XII a imposé que les maisons du pont Notre-Dame soient uniformes, n'est-ce pas ? Avec des pignons se succédant les uns après les autres, comme dans les maisons, les villes, les places des Flandres que nous voyons aujourd'hui. Et puis, deuxième grande action d'urbanisme, enfin d'urbaniste, réunion des différentes parties de la capitale, le Pont Neuf, engagé par Henri III. Ce Pont Neuf, donc, qui était la décision d'Henri III de lancer un grand pont qui, probablement, effectivement, dans les projets d'Henri III, devait être sans maison, devait être un grand pont en pierre, et non pas en bois comme d'autres ponts, un pont en pierre, et qui, au lieu de réunir simplement une rive à l'autre, réunissait la rive droite, la pointe de l'île de la Cité et la rive gauche. C'était donc, on faisait d'une pierre deux coups, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on permettait à ceux qui habitaient l'île de la Cité d'aller sur la rive droite, c'était ça l'essentiel. Mais aussi, il y avait donc une réunion entre ce qu'on appelait la ville, c'est-à-dire la ville politique, la ville des forces économiques urbaines, d'une part, et d'autre part, un geste vis-à-vis de ceux qui habitaient la rive gauche, qui était essentiellement la rive des couvents et de l'université. Donc, deux mondes complètement différents, et nous savons qu'il restait un petit peu quelque chose dans les grandes options des arrondissements parisiens. Donc, cette union de la rive droite et de la rive gauche, à côté du Louvre, se faisait donc, on y associant aussi la pointe de la Cité, ce qui était une idée extrêmement originale, qui sera donc reprise par Henri IV, comme je vais vous le dire. Mais sans ça, ce sont les seuls exemples. Là aussi, rappelons que dans la pensée d'Henri IV, il y avait aussi un petit rappel de ce que Henri puis Jeanne d'Albret avaient voulu faire à Pau, puisque à Pau, ils avaient créé un égout souterrain. Ils avaient pris des mesures contre les incendies, qui étaient si nombreux avec des maisons en bois, et qu'ils avaient aussi tracé une rue droite, avec des alignements des maisons en retrait. Donc il y avait aussi quelque chose de familial dans ce qu'ils rapportaient. Alors à Paris, donc, qu'est-ce qu'il va faire en arrivant? Il va s'apercevoir que cette ville est absolument dégoûtante, que les entreprises qui sont chargées, à qui on donne des marchés pour enlever les ordures, ne font pas leur travail, n'est-ce pas? Donc la voirie est remplie avec des boues et des ordures, que les maisons se construisent n'importe comment avec des saillies les unes au-dessus des autres, avec d'une part qui obscurcissent les rues, d'une part qui d'autre part sont un danger permanent d'incendie, et puis que l'eau à boire manque terriblement. Donc Sully, qui avait été nommé grand voyer de France, achète en 1603 le titre de grand voyer de la ville de Paris et c'est grâce à Sully que ces opérations vont pouvoir se mener. Et on arrive aussi, alors ça c'est très très important, on ne le dit pas assez, on s'est rendu compte, le roi et Sully se sont rendu compte qu'il fallait absolument un texte législatif pour arriver à imposer des données fondamentales de construction et d'utilisation de la voie publique. Et les lettres patentes de 1605 et surtout l'édit de 1607 sont un véritable code de la voirie qui a été ainsi imposé.
C'est le premier code de la voirie parisien, on peut dire, et même français.
Et même français. Une décision tout à fait étonnante qui a été prise aussi grâce aux bons termes que Henri IV avait avec la municipalité parisienne et avec le prévôt des marchands François Miron, dont le nom est resté à une rue parisienne.
Donc ça va être un grand changement dans la vie des Parisiens.
C'est un changement très important. Alors, on s'intéresse d'abord à l'eau. Il faut véritablement que les porteurs d'eau puissent se délivrer de l'eau propre aux Français, pas à tous les Parisiens. Donc on va créer la pompe de la Samaritaine. Pompe de la Samaritaine qui s'appelle ainsi, puisqu'il y avait un bas-relief qui représentait le Christ agenouillé au puits de la Samaritaine, et c'est là qu'il y avait un mécanisme qui faisait monter l'eau où les porteurs d'eau pouvaient venir remplir leurs seaux.
C'était
un
point
tout à fait essentiel, tout près du pont Neuf, pont au Change. Bon, et puis, alors, on se trouve là devant la première création. On s'aperçoit que les quartiers centraux de la ville sont bourrés, pleins, avec pas de rue axiale, etc. Donc on ne peut rien faire de neuf à moins d'utiliser véritablement l'expropriation, ce qui n'était pas encore imaginé par le gouvernement royal. Donc si on ne veut pas exproprier, il faut faire des grands gestes ailleurs que dans le centre. Alors cet ailleurs, qu'est-ce que ça peut être? Eh bien, ça peut être des espaces complètement à l'abandon dans le nord du quartier du Marais, où nous avons là l'ancien palais des Tournelles, n'est-ce pas? Resté dans le sinistre dans la mémoire des Français, puisque c'est dans la rue Saint-Antoine, devant le palais des Tournelles, que Henri II avait été tué en 1559 dans les tournois pour la paix et le mariage de sa fille. Donc, il y avait là un des terrains qui avait été à l'abandon, terrain qui avait appartenu au roi de France depuis le 15e siècle, qui avait été l'espace occupé par le gouverneur anglais au moment de l'occupation anglaise du duc de Bedford. Puis après ça, est abandonné après ça par Henri II. Et curieusement, Catherine de Médicis, à laquelle il faut toujours penser, parce que Catherine inspirait souvent des idées d'Henri IV, et qu'elle avait deviné aussi en lui quelqu'un d'exceptionnel, Catherine de Médicis avait imaginé sur le tracé, sur l'espace de cet ancien hôtel des Tournelles, de tracer un nouveau quartier avec des rues à angle droit et des maisons à façade identiques, n'est-ce pas? Bon, puis le projet était à ce moment-là complètement utopique, avait été abandonné. Mais il y avait cette idée qui était là. Le terrain était resté un terrain vague, c'était le marché aux chevaux. Alors Henri IV a donné la moitié nord du terrain à Sully en disant, bon, voilà, je vous donne ça comme ça, utilisez-le comme vous voulez. Mais en même temps, ceci s'est contrecoupé avec les décisions de politique économique d'Henri IV. Henri IV, nous le disions tout à l'heure avec la plantation des mûriers, avait décidé qu'il fallait absolument produire des mûriers d'une part et manufacturer un tissu avec des fils de soie et d'or, façon Milan, tel qu'on en achetait en Italie pour tout l'ameublement des maisons royales et princières, qu'il fallait cesser cette hémorragie et qu'on était aussi bien capable de fabriquer ça à Paris. Donc il fait planter des mûriers, nous l'avons dit, mais aussi il faut une manufacture, il fait venir des ouvriers d'Italie et il les installe dans une manufacture qu'on commence à construire sur ce qui est aujourd'hui le flanc nord de la place des Vosges. Puis la manufacture est de 1603, l'annonce de la manufacture est 1603, et l'idée d'une place germe en même temps, n'est-ce pas? Il avait plusieurs idées à la minute, Henri IV, et alors cette idée était un peu contradictoire, puisque l'idée germe chez le roi en 1604-1605 d'une grande place. Il avait vu des places ordonnancées, des places carrées. Il en avait vu à Metz, il en avait vu à Vitry-le-François, qui avait été créé du temps de François Ier. Mais aussi, il savait qu'il y en avait de fort belles en Italie, notamment chez les Médicis. L'une des plus belles étant celle de Livourne. Donc, il s'était dit, il faudrait essayer de faire quelque chose comme ça. Et Sully n'était pas très favorable au début en disant, mais non, sur cet endroit-là, les Tournelles, on a la manufacture, on ne peut pas tout faire à la fois. Puis finalement, les lettres patentes de juillet 1605 créent la place. Henri IV bouscule Sully, dit, ça sera comme ça. Et on va faire cette place carrée. Et alors, cette place carrée, d'une part, ce n'est pas du tout un carrefour, absolument pas. C'est une place fermée. J'ai comparé ça avec les inns anglais, n'est-ce pas, à Londres, c'est-à-dire un espace intérieur. On se plaît à l'intérieur, mais ça n'est pas le passage des voitures au milieu. Donc, un grand carré dans lequel on entrera simplement par un passage voûté au sud. Un grand carré. Alors, on commence à vendre les terrains correspondant à un pavillon. Et le principe était celui-ci. Les acquéreurs de ces terrains paieront naturellement la tribu au roi pour la surface qu'ils auront. Ils auront des unités de surface identiques, bon, une unité ou deux unités. Et sur chaque unité, ils auront l'obligation absolue de construire une maison, un pavillon, sur un prototype auquel ils devront se plier absolument, n'est-ce pas, un prototype d'architecture brique et pierre. triomphante, c'est-à-dire en hauteur, avec une galerie au rez-de-chaussée permettant d'avoir des boutiques, donc aussi un intérêt commercial. Et puis au-dessus, donc deux étages avec des balcons et un grand toit triangulaire.
Tout autour de la place.
Et on avait donc conçu trois côtés. Et on a vendu les espaces pour trois côtés. Finalement, on s'est dit, mais le quatrième, on ne va pas laisser la manufacture en face. Alors, Henri IV a eu certainement beaucoup de réunions de travail avec Sully. Et il a dit, bon, ben voilà, on va construire devant la manufacture le quatrième côté. Quatrième côté nord, etc.
Qui cachait la manufacture,
voilà. Et bon, je me rappelle que je faisais mes cours à hautes études, être allé sur place avec mes élèves et leur dire, voyez, c'est le petit bâtiment de l'impasse de Béarn, c'est peut-être un reste de la manufacture qui subsiste derrière les pavillons du côté nord. La manufacture a vraiment été là et a fonctionné. Mais évidemment, après ça, l'utilisation de plus en plus aristocratique a modifié l'usage des espaces.
Donc, un souci esthétique au niveau de l'urbanisation, mais oui, également mettre Paris au travail.
Mettre Paris au travail, absolument. Et alors, il était bien entendu qu'on restait tout de même un espace de fête. Nous avons besoin des espaces de fête. Les espaces de fête, à ce moment-là, c'était pour les joutes. Les joutes, elles ne se feraient plus au Saint-Antoine où Henri II avait péri. Elles se feraient au milieu de la cour. Ça se présentait comme une cour. Il n'y avait pas de jardin, il n'y avait pas de grille, etc. Il y avait un espace sablé dans lequel on faisait les fêtes de la cour et c'était une sorte de lieu de festival et notamment de prise d'armes.
Où donc ça
Au milieu de la place.
Un endroit festif.
La place royale. Il fallait cet espace complètement libre. On l'avait trouvé dans des terrains à la périphérie de la ville.
Déjà, réunir les gens.
Réunir les gens.
Absolument. De communication.
Absolument, voilà. Et la reine Marguerite plantait son estrade. Regarder les fêtes lorsqu'elles venaient comme ça.
Alors, sur le plan architectural, quels étaient ses goûts? Donc, on a vu l'espace, beaucoup d'espace. De grandes galeries.
Oui, bon, vous avez vu une ordonnance absolument nécessaire. Et j'ajoute que lorsqu'il a fait modifier Fontainebleau, il a ajouté la cour, une cour qui était absolument nécessaire pour être la cour des offices, n'est-ce pas? Il n'y avait pas de cour des offices. Fontainebleau s'était construit un petit peu dans tous les sens. Là, il a dit, mais il me faut des offices, c'est-à-dire le préambule nécessaire avec des écuries, avec des lieux pour les serviteurs, etc. Et ça, c'est une ordonnance tout à fait régulière qu'il avait prévue pour la cour des offices de Fontainebleau. Donc, régularité aussi, on l'a vu sur les 400 mètres de la Grande Galerie du Louvre, n'est-ce pas? Absolument régulière, avec deux styles différents, vous savez, qui a malheureusement été modifié sous le Second Empire, mais avec une ordonnance avec trois étages et une ordonnance avec deux étages seulement, avec des pilastres alternés. Donc, un sens architectural très, très, très précis et très régulier. Et cela suppose qu'il avait véritablement des contacts avec les architectes qui venaient le voir et qu'il voyait, qu'on lui présentait des plans. Il disait « oui, ça me plaît ».
Un esprit de synthèse, en quelque sorte,
synthèse, oui.
Et quelqu'un qui respecte les créations du passé, le patrimoine
aussi,
qui lui est
transmis.
Donc, entre l'éducation protestante stricte, vertueuse, donnée par sa mère Jeanne d'Albret, la vie de cour plus libre à laquelle il a dû assister de temps à autre, à la demande pressante de Catherine de Médicis, et puis avec l'esprit plus aventurier de son père, Antoine de Bourbon, qui était un peu l'artiste de la famille, le guerrier, artiste, amoureux, etc. Donc lui est un homme de synthèse qui allie l'amour des choses avec une rigueur venue certainement de sa mère, non? Qu'en pensez-vous?
Tout à fait.
C'est peut-être ce qu'on aime chez lui,
c'est
non?
C'est ce qu'on aime chez lui, mais je veux dire, les édifices qu'il construit ont une application, ont un usage particulier pour lui ou pour les autres. Ça, c'est tout à fait important.
Très important et qui change un peu la donne par rapport.
Qui change la donne, oui.
Au milieu architectural.
Oui. Ça n'est pas le.
On doit y vivre bien et on doit y vivre heureux parce que c'était un homme aussi très amoureux.
Très amoureux.
Qui a passé beaucoup de temps
amoureux.
De sa vie dans les plaisirs. Il a aussi beaucoup passé de temps de sa vie sur les champs de bataille et justement ce côté multifacette du personnage. Alors, on est étonné d'entendre parler de lui en tant que constructeur puisque avant tout, il a dû passer par ses quatre grandes batailles qui ont changé le cours de l'histoire, écrivez-vous. Coutras, dans le sud de la France, Arques, Ivry, ça c'était les guerres menées contre les catholiques, et puis Fontaine française contre l'Espagne. Quatre grandes guerres. Donc Henri IV, que l'on redécouvre un peu à travers l'infrastructure parisienne, et il a aussi construit des fortifications à travers la France.
Je voudrais continuer sur Paris, mais vous dire aussi que, vous le soulignez fort bien, l'espace de temps dans lequel il a pu faire œuvre de constructeur pacificateur est extraordinaire. extraordinairement réduit.
Et il a fait beaucoup de choses.
Il a fait beaucoup, beaucoup de choses.
Était-il bien secondé? Savait-il s'entourer d'équipes?
Il s'entourait d'équipes. Il se faisait présenter des projets. Encore une fois, il promenait dans les galeries en demandant « montrez-moi ça ». Mais enfin, il travaillait sérieusement et avec beaucoup, beaucoup d'applications, beaucoup plus qu'on ne l'imagine aujourd'hui. Et je voudrais continuer pour Paris, puisque en réalité, il y a eu 3 projets, dont 2 seulement ont été réalisés. Nous avons parlé de la Place Royale, qui a été achevée sous Louis XIII, sous le petit Louis XIII en 1612. Il décide d'achever le Pont Neuf d'Henri III. Il décide de l'achever en 1606 et il décide donc de l'achever sans maison. Vous imaginez cette révolution fabuleuse, puisque c'était le pont promenade, n'est-ce pas, dans ce paysage que nous admirons toujours, que vous admirez vous-même de votre fenêtre. C'est le plus beau paysage urbain qu'on puisse rêver, n'est-ce pas, fantastique. Pont promenade, non seulement c'est un pont promenade, mais c'est un pont un petit peu commercial, puisque au-dessus des arches, vous savez, ces petits balcons ronds, n'est-ce pas, qui permettaient de monter des boutiques. Donc, il y avait là le plaisir de flâner, le plaisir d'acheter, n'est-ce pas, et le plaisir de regarder et d'aller d'une rive à l'autre. Et ma foi, ce pont prenant, comme je vous l'ai dit, la pointe de l'île Saint-Louis, il s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire? Il y avait là un petit jardin informe, n'est-ce pas, qui était un reste des jardins de l'ancien, très ancien palais royal des rois de France. Et il s'est dit, mais on va faire une place. Alors, il a dit, comment peut-on tracer une place là? Eh bien, nous allons avoir des maisons qui seront sur les quais et nous aurons au milieu une place triangulaire. Et là aussi, nous imposerons une architecture unique, briques et pierres. Alors, ces maisons ont beaucoup souffert des constructions, mais vous savez, les 2 maisons qui subsistent encore sur le Pont Neuf ont toujours cette très belle architecture, assez simple, briques et pierres, n'est-ce pas, qui nous ramène aux briques et pierres de la Place Royale, la Place des Vosges, mais sur une échelle un petit peu plus basse, parce que nous sommes dans un espace qui est différent, la vision est différente. Mais enfin, nous avions là un ensemble triangulaire qui était la Place Dauphine. Les lotissements se sont faits en 1608, la même chose. Vous achetez, vous construisez sur un parti unique, et ça a été achevé en 1611. Et à ce moment-là, elle a dit, mais nous avons donc le Pont Neuf qui arrive là. Puis le Pont Neuf, il débouche sur la rive gauche. Et puis sur la rive gauche, il aboutit sur le couvent des Grands Augustins. Bon, mais alors, ça n'arrange pas, ça. Couvent des Grands Augustins, qu'est-ce qu'on va faire là? Si on sort du Pont Neuf, on ne va pas se heurter au mur des Grands Augustins. Ah, alors il faut lancer une rue. Alors les Grands Augustins ont dit, mais non, voyons, pas du tout, vous n'allez pas nous priver de notre jardin, notre potager. Et alors, Henri IV leur a répondu, écoutez, l'argent que vous tirerez des maisons qu'on construira vous rapportera un petit peu plus que les choux que vous avez dans votre potager. Et on a tracé la rue Dauphine.
Ça les a convaincus.
Ça les a convaincus. Première rue tracée d'autorité en ligne droite qui pénétrait entièrement la rive gauche pour aboutir à une porte de l'enceinte de Philippe Auguste qui était tout près, avec la porte Dauphine. Et on a commencé à lotir, on a construit. Et puis en 1608 ou 9, quelque chose comme ça, Henri IV, qui se faisait tenir au courant par Sully des travaux, on dit, oh oui, ça avance bien. Et alors il dit, ah, zut, c'est une partie zut, mais presque. J'aurais dû imposer des façades uniques, uniformes, aux acquéreurs de la rue Dauphine, ça aurait fait un effet magnifique. Vous voyez comme
le souci,
les idées continuaient à travailler dans sa tête.
De l'esthétique.
L'esthétique. Et puis alors, troisième, mais alors qui n'a pas été réalisé là, il y avait aussi des terrains à l'intérieur du Marais qui étaient libres, c'était les terrains du grand prieur du Temple. Il a appris que le grand prieur du Temple voulait vendre des terrains, il a dit non, ce n'est pas possible, je ne vais pas le laisser comme ça construire n'importe quoi, nous allons tracer une place. Cette place sera un hémicycle. Nous avions vu le carré, nous avions vu le triangle, l'hémicycle qui devait être adossé à une porte triomphale de la vieille enceinte de Paris, et qui se serait élevé dans le nord du Marais, au 3e arrondissement, à peu près au croisement de la rue Vieille du Temple et la rue de Turenne. On aurait une grande pièce hémicycle, avec là aussi des bâtiments d'une architecture régulière, avec des rues traçant l'hémicycle, et qui auraient été sur de magnifiques carrefours pour à l'arrivée sur Paris depuis la Lorraine, par exemple, avec tous les terrains de l'Est. Elle n'a pas été faite, on a seulement tracé quelque chose, et il nous reste une étrange petite rue qui se promène comme ça avec des allures d'hémicycle et qui est la rue de Bellem. Et nous avons aussi quelques rues qui ont gardé le nom de ce qui allait être ce motif extraordinaire de la place. La place devait s'appeler la place de France. Et nous avons là la rue de Normandie, la rue de Bretagne, la rue de Saint-Onge. Vous voyez le programme, c'est-à-dire la place royale, c'est l'honneur du roi. La place Dauphine, c'est parce qu'enfin la France a un dauphin, donc les Bourbons sont là. Et puis le roi et le dauphin, ils sont pour la France, la Réunion de la Reine. Extraordinaire symbole, n'est-ce pas? Malheureusement, qui n'a pas été réalisé. Mais rappelons aussi qu'elle a construit l'hôpital Saint-Louis, qui est une magnifique construction. C'est 1607. Il a terminé l'hôtel de ville. Il a construit l'hôtel Dieu Saint-Marcel, etc. Bon.
Alors, on aimerait bien que toutes nos grandes administrations partagent ce sens de l'utilité, comme vous le disiez, et puis en même temps de la beauté, mais pour le partage général.
Oui, oui, tout à fait. Mais figurez-vous que moi, ayant pratiqué, si je peux dire, la pensée d'Henri IV, parce que Henri IV est l'un des hommes de l'histoire de France qui s'est le plus exprimé dans ses lettres ou sur lequel on a le plus exprimé dans une infinité de journaux de Parisiens, etc. Donc on sait tout ce qu'il pensait. Et chaque fois qu'on voit des projets sur Paris ou sur une grande ville, ou les pavillons de la France à Shanghai, etc., bon, comment est-ce que Henri IV aurait réagi? Quelle aurait été sa pensée au profit de quelle idée maîtresse ce serait-il?
Ah, vous accompagne sans arrêt, oui, hein, il est dans vos réflexions, oui, dans vos pensées. Et vous avez publié, Jean-Pierre Bablon, en 2008, Henri IV et les livres. Alors, entre ses combats, ses guerres, ses multiples rencontres, aventures, liaisons amoureuses, avec tous ses projets de construction et puis sa lutte pour pacifier tous les Français, rétablir la paix, et puis se mettre au travail avec Sully, se remonter les manches pour pouvoir rétablir l'économie en France. Il avait encore le temps de lire, ce bon roi Henri?
Alors, il lisait ou il se faisait lire. J'ai des témoignages comme quoi, par exemple, j'ai l'impression qu'il s'est fait lire Don Quichotte. Bon, et puis d'autres romans, il aimait bien les romans. Et là, il se faisait lire, de même qu'il se faisait lire aussi des psaumes.
Donc pas un rustre, notre
Henri IV. Non, c'est pas du tout un rustre, comme on peut imaginer. Bon, il écrivait admirablement, n'est-ce pas? Il avait une plume
Les auditeurs de Canal Académie pourront écouter certaines lettres.
Certaines lettres.
Qu'il a écrites, oui. Et qui sont absolument magnifiques, et dans lesquelles il s'épanche, il ouvre son cœur et son âme. On est très proche de lui quand le lit.
Ah, c'est Proust qui parlait du français exquis d'Henri IV. Mais rappelez-vous aussi que c'est tout de même Henri IV qui a à peu près créé la Bibliothèque royale, n'est-ce pas, en rachetant la bibliothèque de Catherine de Médicis et en trouvant des lieux particuliers pour la loger. C'est lui qui a refondé complètement le Collège de France, fondé par François Ier, mais qui est devenu le Collège de France.
Grâce à Henri IV.
Grâce à Henri IV, en augmentant le nombre de chaires. C'est lui qui a, contre vents et marées, fait entrer les jésuites en France, alors que le Parlement voulait s'y opposer absolument parce qu'il avait reconnu dans les jésuites des pédagogues étonnants et qu'il voulait absolument que les enfants de l'aristocratie et de la grande bourgeoisie puissent recevoir un enseignement qui ne soit pas seulement de caracoler sur des chevaux, mais aussi d'avoir véritablement la lecture et la pratique des auteurs anciens. Et vous savez que le prytané de la Flèche, c'est ça, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça. On soupçonne les jésuites d'avoir nourri, d'avoir un peu protégé dans leur sein le propre assassin d'Henri IV, Ravaillac.
C'est
un mystère qui demeure.
C'est un mystère.
Est-ce que son bras avait été armé ou pas? Alors, les historiens écrivent et continueront peut-être d'écrire.
Oui, ça c'est un sujet inépuisable.
Voilà. Mais vous serez d'accord, Jean-Pierre Bablon, pour dire que le côté multifacette, humaniste du personnage, on peut dire de lui le protestant, le huguenot, le roi de tous les Français, le pacificateur. C'est grâce à lui que la signature de l'édit de Nantes a pu être faite. Le charmeur, le séducteur comme son père, l'amoureux transi, le guerrier, le fin stratège, l'homme politique qui a su s'entourer d'une belle équipe au travail, une équipe stable. Et le grand communicant, comme vous le disiez tout à l'heure, à travers ses lettres, mais à travers le verbe aussi. Il a payé de sa personne par sa présence, par ses mots, en encourageant un peu tous ceux qui se trouvaient autour de lui. C'est un très beau personnage, un peu que l'on a réduit à sa poule au pot, non? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui,
à ses multiples abjurations, qu'en pensez-vous?
Oui, les abjurations, vous savez, il faut voir dans quelles circonstances elles ont été.
Voilà, il y en a eu six, je crois.
Le couteau sous la gorge, c'est oui ou non, c'est oui ou non, continue, on continue pas. Et lui, imaginait, bon, il faut voir ça aussi dans une pensée religieuse, n'est-ce pas? Bon, j'ai fait récemment une conférence sur Henri IV et la réforme, la société du protestantisme français. Je pense que l'une des idées maîtresses qui régnait à ce moment-là, c'était qu'on arriverait à trouver une solution entre le catholicisme et la réforme, entre Rome et la réforme, disons plutôt Rome, n'est-ce pas? Et qu'on le trouverait par un véritable concile œcuménique. Le concile de Trente avait éveillé les plus grands espoirs, il s'était mal terminé. Et chacun pensait, mais Duplessis Mornay aussi, qui était le grand conseiller protestant d'Henri IV, pensait qu'on arriverait un jour à réunir tout le monde grâce à un concile.
Et ça ne s'est pas fait.
Il faut penser aussi que l'attitude de la monarchie française vis-à-vis du pouvoir pontifical, n'est-ce pas, était un petit peu ambiguë. C'est le pape qui était vraiment la référence d'un roi très chrétien en France, mais en même temps, il représentait un pouvoir politique qui n'était pas très bien perçu dans une partie même du clergé catholique français avec un monde gallican et qui est resté gallican longtemps, n'est-ce pas?
Au niveau de vos études, de vos recherches, qu'est-ce qui vous a le plus séduit, le plus surpris en lui? Vous vous sentez proche de cet Henri IV, comment ?
Oui, je me sens proche d'un homme qui pense aux autres, un homme qui est moderne et qui veut faire entrer la France dans la modernité. Une chose qui m'a frappé toujours, c'est qu'il avait un sens de la communication exceptionnel. C'est-à-dire que toutes ces décisions faisaient l'objet de proclamations qui étaient lancées dans toute la France de façon qu'on sache tout. Et lorsqu'il est entré à Paris, j'en ai retrouvé un exemplaire dans la bibliothèque de Chantilly. Lorsqu'il est entré à Paris, il était accompagné d'un imprimeur qu'il avait trouvé dans la suite d'Henri III à Tours, n'est-ce pas, et qui l'accompagnait. Il y avait les presses de l'imprimeur et il avait imprimé un tract. C'est le premier tract imprimé de l'histoire de France. Et lorsqu'il est entré, c'est lorsqu'il a passé la porte, il y avait des seigneurs autour de lui, enfin des personnes qui étaient dans sa suite, qui se sont mis à distribuer ces tracts à tous les Français. Je le reproduis dans mon livre. Et ce tract annonce déjà, d'une certaine manière, cet admirable préambule de l'édit de Nantes, en disant « Écoutez, maintenant j'arrive, tout est oublié. Je vous défends de vous quereller pour vos opinions différentes d'hier et d'avant-hier. C'est terminé ça, n'est-ce pas? Nous entrons dans un nouveau monde, c'est fini. » Embrassez-vous.
Il l'écrit, il le dit, oui, il le communique, et il le divulgue. Donc il serait absolument ravi que nous continuions, absolument, cher Jean-Pierre Bablon, à parler de lui, à évoquer sa mémoire devant les micros de Canal Académie. Alors, nous rappelons avant de nous séparer, Jean-Pierre Bablon, et nous signalons à nos auditeurs qu'ils peuvent retrouver tout votre travail de recherche dans différents ouvrages, publications telles que « Demeure parisienne sous Henri IV et Louis XIII ».« Henri IV », ce livre paru chez Fayard en 1982.
Réédition de 2009.
De 2009. Il y a aussi « Paris au XVIe siècle ».« Henri IV, lettre d'amour et écrit politique », édition critique. Et puis alors, plus récemment, « Le château d'Amboise », c'était en 2004. 2008, Henri IV sur le pont Neuf, les boîtes retrouvées dans le fameux cheval de bronze. Et en 2008, Henri IV et les livres dont nous parlions tout à l'heure. Alors, nos amis internautes peuvent aussi télécharger les émissions que Canal Académie et sa rédaction vous ont consacrées. Donc, Henri IV, des boîtes cachées dans sa statue équestre, de quoi s'agissait-il? Et deux émissions sur le Primatis. Alors, on sort là de l'environnement de notre ami Henri IV. Lecture de ses fresques, donc à Chalice, dont vous vous occupez en ce moment, Jean-Pierre Bablon. Merci pour ce compagnonnage auprès d'Henri IV dont vous nous avez fait profiter aujourd'hui. Merci de votre venue. Au revoir.